grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Qu'est-ce que l'intelligence ? C'est la vaste question que nous posons ce matin. Vous verrez par exemple pourquoi l'inhibition cognitive reste l'une des clés de notre intelligence. Pour le dire simplement, l'inhibition cognitive, c'est la capacité de notre cerveau à contrôler, à bloquer nos intuitions. C'est une sorte de chef de gare qui nous incite à résister à nos automatismes, nos habitudes, aux tentations et distractions, préjugés qui affectent nos capacités de penser. Nous verrons que résister et penser contre soi-même est l'une des clés qui nous permet de déployer notre intelligence. C'est la thèse centrale du nouveau livre du professeur de psychologie et chercheur au CNRS Olivier Houdet. Avec nous également le docteur en neurosciences Sébastien Boller. Toutes vos questions sur l'intelligence au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Guillemette Odissino est au Festival de Cannes pour Télérama et c'est vous, Christine Appelé-Douel, qui ferez donc preuve d'esprit d'escalier avec nos invités.
Je vais essayer, je ne suis pas sûre d'être à la hauteur, on verra.
Et Guillemette Odissino qui a emporté dans ses bagages Éric Libio de L'Express. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébéi.
Bienvenue à nos invités. Bonjour Olivier Houdet.
Bonjour.
Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de votre discipline. Vous êtes professeur en psychologie du développement à la Sorbonne, chercheur au CNRS, directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Et vous publiez chez Odile Jacob « L'intelligence humaine n'est pas un algorithme » avec une préface de Jean-Pierre Changeux. Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour Ali.
Vous êtes polytechnicien, docteur en neurosciences et vous êtes le rédacteur en chef du mensuel « Cerveau et psycho ». Avec à la une ce mois-ci, comment la nature fait du bien à notre cerveau. On se sent moins intelligent tout de suite, Christine Appelé-Douel, face à ces deux grosses têtes.
Alors vous peut-être, mais moi pas du tout, je tiens à le préciser.
Donc dans le Robert, plusieurs définitions de l'intelligence. Pour le Robert, c'est la faculté de connaître, de comprendre, la qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. C'est également l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance rationnelle. Et pour vous, Olivier Houdet, c'est quoi l'intelligence ?
Précisément, la connaissance rationnelle ne suffit pas. L'intelligence dans le cerveau comporte trois systèmes de neurones interdépendants. D'abord, les heuristiques. Les heuristiques sont des stratégies mentales très rapides, très efficaces, qui marchent très bien, très souvent, mais pas toujours. Ce sont nos automatismes. Quelquefois, les automatismes entrent en compétition avec la logique, la rationalité, ce que j'appelle les algorithmes, qui sont plus analytiques, plus lents, qui demandent un effort cognitif de notre cerveau. Ce que peut-être, là, vous hésitez à faire si vous êtes fatigué ce matin, Ali. Donc, algorithmes heuristiques entrent tout le temps en compétition dans le cerveau. Et comme les heuristiques, c'est-à-dire nos automatismes, sont plus rapides, ce sont en général les automatismes qui passent dans nos réponses, qui nous font dire des bêtises, être illogiques, irrationnels, y compris les adultes. On a longtemps cru que... les rationalités, les réponses illogiques étaient le fait des enfants, avant 6-7 ans, avant l'âge de raison. Et c'est ainsi que Piaget a décrit un stade illogique avant 6-7 ans, avec ensuite un stade de logique, d'abord concrète chez l'enfant, et formelle et logico-mathématique chez l'adulte, qui dans certains cas peut par exemple conduire à un polytechnicien. Mais ce schéma, on le sait, du développement est aujourd'hui tout à fait faux, parce que les intuitions illogiques, les rationalités, humaine, la nôtre, ne disparaît pas. Elle coexiste toute notre vie avec notre rationalité. Et dès lors, pour moi, la clé de l'intelligence, vous l'avez dit, est un troisième système inhibiteur, un système d'arbitrage que nous avons dans notre cerveau, qui occupe d'ailleurs une très grande place dans le cortex préfrontal, à l'avant du cerveau. Et ce système inhibiteur, dont la mise en marche est très difficile, c'est pourquoi il faut l'éduquer à l'école, ce système inhibiteur peut nous permettre, au cas par cas, d'inhiber nos automatismes, nos heuristiques, quand elles nous rendent bêtes. Je vous donne un exemple. Si vous demandez à des enfants de résoudre un syllogisme, un petit problème de logique, et que vous dites en classe « les éléphants sont des mangeurs de foin », première proposition. Deuxième proposition, « les mangeurs de foin ne sont pas lourds », est-ce que cela veut dire que les éléphants sont lourds ? tous les enfants lèvent le doigt et disent oui, c'est juste, c'est logique. Ce n'est pas logique du tout. La conclusion est très crédible. C'est ce qu'on appelle l'automatisme de crédibilité. Notre cerveau fonctionne beaucoup plus vite. Les neurones se connectent pour quelque chose de crédible. Mais ce qu'il fallait évaluer là, c'était la validité logique. Pour ceux qui réécouteront l'émission, ils verront qu'on ne peut pas du tout déduire la conclusion « les éléphants sont lourds » des deux énoncés précédents. Le syllogisme, comme l'aurait dit Aristote, n'est pas respecté. C'est le problème des enfants et c'est pourquoi il faut à ce moment-là inhiber la croyance. C'est en ce sens que je ne suis pas d'accord avec la définition du petit Robert. Il faut inhiber la croyance, la connaissance générale sur « les éléphants sont lourds » que tous les enfants ont et nous aussi pour activer le raisonnement logique. Et c'est aussi, vous le savez aujourd'hui, tout le problème des fake news qui font que même adultes, parce qu'on n'a pas été éduqués à cette inhibition positive, cognitive, on se laisse guider plutôt par la crédibilité dans le monde numérique et d'Internet aujourd'hui que par la validité logique.
Sébastien Boller.
Oui, ben je suis en train de céder à mon biais de crédibilité devant Olivier Houdet, que j'estime beaucoup et qui est grand professeur, qui dit des choses très compliquées, donc automatiquement je me dis c'est vrai. Et puis après je réfléchis, j'inhibe et j'écoute plus attentivement et je confirme que oui, je suis tout à fait d'accord. Mais oui, c'est vrai que c'est une composante essentielle de l'intelligence, je crois, la rationalité, quand c'est l'esprit critique. Arriver à mettre de côté ce qu'on a tenu pour acquis pendant longtemps, on le fait pratiquement jamais. Bah, c'est un petit peu le doute systématique qu'a lancé Descartes, hein, dans la grande mode des idées à cette époque-là. C'est très difficile à mettre en place, mais c'est un enjeu de société, évidemment. Et l'intelligence repose en grande partie là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que de la pure rationalité quand même dans l'intelligence ? On parle parfois d'intelligence... intelligence émotionnelle, d'intelligence, même d'intelligence intuitive, c'est-à-dire, vous savez, toutes les situations où on demande à des personnes de réfléchir à des problèmes très compliqués, et puis ensuite soit d'aller dormir, soit d'aller faire autre chose, et on s'aperçoit que après une phase de repos, bah, leur cerveau a quand même traité les informations. Alors cette fois-ci, c'est pas sur un mode délibéré, en pesant consciemment les termes du problème, mais probablement par des processus inconscients qui ont aussi une capacité de résolution. Donc il faudrait peut-être aussi intégrer ça dans l'intelligence, mais bien éduquée, une sorte d'intuition qui repose sur une expertise et un travail préalable quand même.
Oui, Sébastien Boller a raison. On en a fait démontrer dans mon laboratoire que cette inhibition dont je parle, on pense d'abord qu'elle doit être contrôlée, qu'elle demande un effort cognitif, mais qu'on peut l'automatiser par l'entraînement, y compris qu'elle soit en dessous du seuil de la conscience. C'est-à-dire on peut inhiber les heuristiques de façon inconsciente, ce qui peut se passer dans le sommeil. Et ça, c'est vraiment démontré en psychologie expérimentale par les temps de réaction en millisecondes, en deçà du seuil de la conscience. Et c'est indispensable, parce que Daniel Kahneman, psychologue contemporain, lauréat du prix Nobel d'économie, qui avait montré que nous étions, nous adultes, désespérément dominés par nos heuristiques, était très pessimiste. Moi, je suis au contraire optimiste. Je pense qu'en entraînant cette inhibition, elle peut devenir aussi rapide, voire inconsciente, que les heuristiques pour les attraper au vol, en quelque sorte. Et c'est cela qui pourrait sauver notre rationalité. Quant aux émotions, on en reparlera tout à l'heure, mais il faut un guidage émotionnel de l'inhibition, et ces deux formes d'intelligence, selon moi, doivent être interconnectées.
Vous avez cité le prix Nobel Daniel Kahneman. Rappelons ce qu'est le système 1 et le système 2, Olivier Houdet. Le système 1, très rapide dans notre cerveau, très efficace, intuitif. C'est un lièvre qui nous fait commettre parfois des erreurs. Et puis le système 2, plus lent, logique, plus réfléchi, qui demande des efforts. C'est un système qui prendrait peut-être l'apparence d'une tortue.
Exactement, hein, la lenteur. Et en effet, notre cerveau est assez lent, ce qu'on ne dit pas souvent. Et il est surtout lent lorsqu'il doit être logique et rationnel. Ce qui fait que toute stimulation extérieure va nous entraîner, et aujourd'hui dans le monde des écrans plus que jamais, à être rapide. Mais on confond vitesse et intelligence. Or, il faut justement s'arrêter un peu, ralentir, et physiologiquement, c'est le processus d'inhibition dans le cortex préfrontal.
Est-ce qu'on peut prendre un exemple simple ? Oui. Louise a 25 billes, elle en a 5 de plus que Paul. Combien Paul en a-t-il ? C'est une question qu'on pose souvent aux enfants.
Et les enfants répondent 30, parce qu'ils entendent dans le langage, dans la voix de la maîtresse, plus. 25 plus et 5, donc ils font 25 plus 5 égale 30. Ils ont surappris en fonction, en raison de leur système 1, une heuristique, après plus, j'additionne, après moins, je soustrais. Mais ce n'est qu'une heuristique, ça ne marche pas toujours. Et le cas que vous avez cité, Ali, ne marche pas, et donc il fallait au contraire inhiber cette heuristique après plus j'additionne, pour activer un algorithme qui, vous le voyez bien, est très simple, c'est la soustraction. Il fallait faire 25 moins 5 égale 20, or aucun enfant ne donne cette réponse, ou très rarement, alors qu'ils ont tous appris les additions et les soustractions. Ce qui vous montre que l'intelligence n'est pas que de la rationalité ni des algorithmes, c'est avant tout inhiber les heuristiques qui à tout moment nous piègent, et surtout en classe.
Un point de vocabulaire très important, rappelez-nous ce qu'est une heuristique, il y a beaucoup de nos auditeurs qui ne connaissent pas ce terme.
Alors en effet, vous êtes fatigué, Ali, parce que je l'ai dit tout à l'heure.
Oui, mais c'est bien de le redire.
Je taquine. Une heuristique est une stratégie donc mentale, très rapide, très efficace, qui marche très bien, très souvent, mais pas toujours. L'exemple qu'on vient de prendre, après plus j'additionne, ça marche quasiment tout le temps. Sauf dans le petit problème que vous avez très bien énoncé, Ali. Là, il fallait au contraire inhiber cet automatisme, cette heuristique qui marchait toujours. Et cette inhibition, c'est la clé de l'affaire, sinon vous vous trompez.
Vous me cherchez, mais vous savez que la pédagogie naît de la répétition. Sébastien Bonnet.
Mais on est guidé par des heuristiques tout le temps et dans tous les domaines. Je veux dire, il y a une heuristique très simple, c'est le mimétisme. C'est une forme d'heuristique aussi. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui veut s'acheter une paire de baskets, s'il a 14 ou 15 ans, il va regarder les copains à l'école, se dire ça c'est une super marque parce que tout le monde la possède déjà. Donc on veut se fondre dans le groupe, c'est une des clés d'interprétation de base du comportement humain. Et par contre, si vous discutez avec ces jeunes en leur disant bah, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment la meilleure paire de chaussures, est-ce que c'est la meilleure pour l'environnement, est-ce que là les processus de réflexion entrent en jeu. Mais à cet âge-là, vous voyez que l'heuristique, la pulsion, le désir de se fondre dans le groupe reste très forte, parfois impossible à inhiber. Donc c'est un travail de tous les jours de réintroduire de l'esprit critique. Et alors dès le plus jeune âge, comme Olivier vient de le dire, chez les enfants, mais après faut en remettre une couche à l'adolescence. Quand ces jeunes arrivent après devant Internet, où on peut tomber sur toutes sortes de théories qui font appel à ces petits leviers, ces petits boutons du jugement implicite, intuitif, rapide, c'est très difficile de résister. Et donc là, l'esprit critique devient un enjeu de survie.
Les complotistes sont les rois de l'heuristique, hein, mais pas seulement. Alors, on peut dire aussi, à l'inverse, si je vous suis bien, si j'ai bien mis de côté tous mes réflexes heuristiques, que l'inhibition, donc qui est au centre, hein, est l'espèce de mécanisme qui permet de franchir un pas et de passer d'un système de pensée, de raisonnement facile, hein, on va dire, c'est la paresse intellectuelle, c'est ce qu'on sait déjà, on va pas se fatiguer. Et en faisant fonctionner cette inhibition, ce petit cliquet, ça nous permet de passer, de franchir une étape et de passer à un autre type de compréhension. Est-ce que, par exemple, c'est ce qui se passe lorsqu'on apprend à lire? C'est-à-dire que les enfants ont l'habitude de voir des images. C'est pas compliqué, on voit des images, on voit des signes. Et est-ce que l'apprentissage, justement, leur permet d'inhiber un certain nombre de comportements? Et hop, avec ce passage d'un seul coup à la compréhension de ce que sont les lettres, est-ce que ça leur permet justement d'apprendre à écrire? Est-ce que l'apprentissage, d'une manière générale, c'est ça? C'est faire fonctionner l'inhibition. Alors là, je vous pose une colle, docteur.
Très intéressante, merci, chère madame. Alors, de façon générale, et puis sur votre exemple précis de la lecture, l'apprentissage disait déjà, il y a à peu près 30 ans, Jean-Pierre Changeux, qui, comme vous le dites, me fait l'honneur de faire cette préface, le plus grand neurobiologiste français, fondateur des neurosciences cognitives, avec lequel Sébastien a fait d'ailleurs sa thèse de doctorat, je crois. Jean-Pierre Changeux a toujours dit « apprendre, c'est éliminer ». Et lui parlait en termes de connexion neuronale. Vous savez que dans le cerveau, vous avez une multiplication synaptique. Il y a énormément de neurones, entre 80 et 100 milliards, 1 million de milliards de connexions, donc ça fait beaucoup trop. Il y a un potentiel de connexion neuronale dans le cerveau de chacun, il faut se le rappeler, même vous, Ali, ce matin qui n'êtes pas très bien réveillé, vous avez un milliard, peut-être endormi, mais un milliard de connexions. Et ce milliard de connexions, il faut les laguer. Il faut éliminer certaines connexions pour en renforcer d'autres. Et c'est cela, l'apprentissage, que Changeux avait appelé l'élagage synaptique.
C'est ce qui se passe au niveau intellectuel quand on grandit.
Voilà.
Enfin, au fur et à mesure que l'enfant grandit...
L'environnement, et c'est là où le rôle des professeurs et de l'environnement, et notamment pour cette question dont on parle du contrôle de soi, contrôle inhibiteur, est essentielle, parce que selon les feedbacks reçus de l'environnement, c'est-à-dire les récompenses, les renforcements au sens positif du terme, vous allez stabiliser certaines connexions neuronales dans le cerveau de l'enfant et en éliminer d'autres. Donc il n'y a pas d'opposition entre sociologie, contexte social et cerveau et biologie de l'autre côté. Le cerveau est fait pour être social, interconnecté, entrer, comme le disait Sébastien, en résonance motrice et sociale avec autrui, mais il ne faut pas non plus toujours entrer en résonance motrice et sociale avec autrui, il faut aussi inhiber cette imitation dont on parlait. Je n'ai pas répondu sur la lecture, mais...
Allez-y.
Alors, pour la lecture, on observe un phénomène tout à fait amusant que tous les pédagogues connaissent depuis un siècle, ce sont les confusions de lettres en miroir.
Oui.
Très souvent, les enfants butent sur B, D... qu'ils confondent, ou P et Q. Et il n'y a jamais vraiment eu d'explication de ce phénomène. Et on a découvert la clé, c'est-à-dire qu'en effet, dans le traitement des images, comme vous disiez, si l'enfant voit, on voit un zèbre arriver dans une pièce d'un côté et puis de l'autre, on infère que c'est toujours le même zèbre. Nous avons une heuristique de généralisation en miroir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit quelqu'un ou un objet dans une orientation latérale différente, on ne va pas se demander si c'est un objet différent. Heuristique de généralisation de l'identité, qui marche très bien dans des jeux d'images en maternelle. Et quand l'enfant voit les lettres B, D, P, Q, cette heuristique lui vient évidemment immédiatement à l'esprit, parce qu'un B est l'inverse d'un D en miroir, et un P l'inverse d'un Q, et il les confond. Donc l'enfant ne parvient pas, et on l'a démontré expérimentalement, à inhiber l'heuristique de généralisation en miroir pour activer l'algorithme qui est quoi dans ce cas-là ? L'alphabet, les 26 lettres, et leur correspondance graphophonologique, c'est-à-dire entre la forme des lettres et les sons. Et si on prend le temps de décliner l'alphabet, qui d'ailleurs souvent est écrit au-dessus des tableaux dans les classes, c'est ça un algorithme dans ce cas-là, eh bien on réussit. On ne confond pas le B et le D, et le P et le Q. Et on distingue bien dans son cerveau ce qui est de la catégorisation d'images ou d'objets et de la catégorisation de lettres. Mais notre cerveau bute là-dessus parce qu'il ne parvient pas à inhiber cette heuristique de généralisation miroir qui ne doit pas se désapprendre définitivement parce qu'elle reste après. Si vous êtes chez vous, couché dans votre canapé en train de lire un livre, vous voyez sur la page plein de D, plein de B, plein de Q, etc. Vous ne les confondez pas, vous inhibez la généralisation en miroir, mais si votre chat passe dans la pièce pendant que vous lisez et qu'il vient dans un sens, il va dans la cuisine et puis il revient, vous n'allez pas vous demander si ce sont deux chats différents. Donc en permanence, votre cerveau doit inhiber, activer, et c'est pourquoi je dis dans ce livre chez Odile Jacob, l'intelligence n'est pas un algorithme, pas seulement, sinon pour la lecture, l'alphabet suffirait. Or, on peut avoir acquis l'alphabet, répéter l'alphabet et être incapable d'inhiber ses erreurs en miroir.
Sébastien Belair.
Donc pour un enfant, un Q, c'est un P qui est arrivé par l'autre porte.
Oui,
mais,
voilà, exactement.
Mais c'est très intéressant.
Exactement.
Alors, je savais pas
et
ça.
C'est très difficile à inhiber.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on pourrait, par exemple, prendre en charge certaines formes de dyslexie en faisant des exercices justement sur l'inhibition de ce biais-là ?
C'est ce qu'on a fait. Ouais. Dès l'instant, on a pu démontrer dans des paradigmes expérimentaux que techniquement on appelle de l'amorçage négatif, qui se mesure là aussi en dizaines de millisecondes, comment se déclenche cette heuristique de généralisation miroir et comment un jeune enfant doit apprendre à l'inhiber, mais pas l'inhiber définitivement, l'inhiber à ce moment-là, puisque juste après, en effet, il peut voir son chat ou tout autre objet, et dans la vie... Enfin, dans l'environnement visuel, on serait tout à fait inadapté si on n'utilisait pas l'heuristique de généralisation miroir. Oui. Sauf pour ces deux paires de lettres que les pédagogues avaient appelées les couples infernaux de la lecture. Oui. Et on commence à comprendre comment, disons, gérer ces couples infernaux.
Allez, nous attendons toutes vos questions sur l'intelligence au 01 45 24 7000. Alexia Rivière, Alexia Lacour ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve et c'est réalisé par David Leprince. To know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Road leaving me again.
cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing, better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
I'm still standing.
Elton John, I'm Still Standing. Le biopic sur Elton John, Rocketman, a été présenté hier soir au Festival de Cannes, où se trouvent d'ailleurs nos amis Eric Libio et Guimet Odissino.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Grand bien vous fasse.
Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent.
Je ne sais pas, faudra que j'essaye.
Sur France Inter.
10h29, qu'est-ce que l'intelligence? C'est notre question ce matin avec le professeur de psychologie du développement, Olivier Houdet, avec Sébastien Beller, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Olivier Houdet, tout à l'heure, vous nous avez dit que penser, c'est faire preuve d'intelligence en inhibant. Et dans la vie quotidienne, dans la vie du travail, est-ce que vous avez des exemples concrets?
Oui, on peut dire de façon générale, à chaque fois qu'au travail, on s'est installé dans une routine, dans une habitude qui marche très souvent, mais pas toujours, on peut être amené à devoir l'inhiber. Et c'est vrai, de plus en plus, dans le travail, dans le management, on demande, il se fait que les nouvelles générations sont plus flexibles, donc doivent apprendre à inhiber et activer. Mais je vais vous donner un exemple très concret que l'on a fait dans le monde, réalisé dans le monde du travail. Très souvent, j'étais invité à faire des séminaires de formation dans des grands groupes industriels français, y compris pour des cadres supérieurs dits à haut potentiel, c'est-à-dire des polytechniciens. Et je leur soumettais le problème suivant, s'il y en a qui nous écoutent, s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. Problème très simple. Et tous les jours dans le monde du travail, on doit gérer des si alors, des règles, des instructions. Ouais. Donc s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. Et on peut le faire sur ordinateur ou avec du matériel concret sur une table. 12 formes géométriques, vos auditeurs peuvent dessiner, des carrés, des cercles, des losanges, qui peuvent être bleus, jaunes, rouges ou verts. Je donne tous les détails dans mon livre. Et c'est un test d'intelligence. Donc, comme le disait le monsieur qu'on a entendu tout à l'heure, bon, c'est fatigant d'être intelligent. Donc, mais c'est parfois utile et agréable. C'est un test d'intelligence. Et le test d'intelligence est qu'il faut rendre cette règle fausse. Ce qu'on appelle un test de, en logique, de falsification de règles conditionnelles. Et donc, on vous dit, vous pouvez, parmi ces 12 formes géométriques colorées, en choisir deux de votre choix, les mettre pour l'une dans la case de gauche, qui correspond à gauche dans la règle, et l'autre dans la case de droite, de telle sorte qu'avec ces deux règles, vous alliez contre la règle, vous la rendiez fausse. C'est le propre de la logique et de l'intelligence, à savoir que le réel n'est qu'un cas particulier du possible, et qu'on peut imaginer des mondes virtuels. Eh bien, vous serez très surpris de savoir que la plupart des gens que vous interrogez dans le monde du travail, comme ça au hasard, donnent des réponses fausses à plus de 90%, c'est-à-dire répondent carré rouge, cercle jaune. Ce que sans doute beaucoup d'éditeurs ont répondu, et moi aussi la première fois où je l'ai fait.
Parce qu'ils se disent qu'il faut que la prémisse soit fausse, alors qu'en fait il faut une prémisse vraie et une conséquence fausse.
Il y a une heuristique dominante, je vais vous dire laquelle, c'est que quand il y a une négation dans un énoncé, qu'on doit traiter cette négation, on croit qu'en remettant la même chose, donc en faisant un appariement perceptif, c'est ça l'heuristique ici, l'appariement perceptif, on va contre la règle. Un enfant auquel on dit, il ne reste plus de glace au chocolat, alors qu'il en veut. Il y pense toute la journée. Si je vous dis, à vous, sur le plateau et aux auditeurs, n'imaginez pas un éléphant rose. Tout le monde imagine un éléphant rose.
Bien sûr.
C'est irrationnel ce que je vous dis. Mais ce sont ces irrationalités qui créent des heuristiques. Et l'on pense quelque part que pour rendre la règle logique que je vous ai dite fausse, il faut mettre un carré rouge et un cercle jaune. En fait, il fallait rendre l'antécédent vrai. Pas de carré rouge, donc inhiber carré rouge et mettre par exemple un losange vert. Et le conséquent faux, puisqu'il fallait rendre la règle fausse, donc pas de cercle jaune à droite, inhiber cercle jaune et mettre par exemple un carré bleu. Et si vous mettiez losange vert, carré bleu, il y a d'autres réponses logiques possibles. Vous voyez donc le lien entre inhibition et créativité. Une réponse logique et créative, multiple, mais ça exige d'inhiber l'appariement perceptif pour activer l'algorithme qui, dans ce cas, est... Ali en a marre.
Non,
qui dans ce cas,
marre.
L'algorithme logique de validité.
J'étais en train de me dire que j'allais réécouter le podcast pour tout bien voilà. comprendre.
Et le titre de son livre, c'est « Notre cerveau n'est pas un algorithme
». Alors là, on est algorithmes.
Réécouter le podcast, mais ça ne suffira pas à reliser le livre.
Oui, évidemment. Alors moi, j'ai l'impression qu'on est là quand même dans une composante de l'intelligence qui est l'intelligence logico-mathématique, vraiment. Mais Olivier Houdet travaille depuis longtemps sur l'intelligence au sens large, y compris sur la définition qui avait été donnée au départ par Binet avec les tests de QI. Il me semble que dans cette définition de l'intelligence, il y a d'une part la logique, et puis il y a aussi par exemple la façon de gérer les mots, le langage, il y a plusieurs choses, non ?
Absolument. Mais Ali demande un exemple dans le monde du travail. Oui. Dans le monde du travail, vous avez des mots, vous avez du langage, il y a de la logique. Piaget disait, la logique est la morale de l'action. Mais tous les jours, on se demande si ce qu'on fait est logique, si c'est cohérent que ce que l'on a fait hier. Donc il n'y a pas quelque part la logique abstraite et la vie réelle, non, tout s'est imbriqué.
Si je n'ai pas compris toute votre démonstration logico-mathématique, est-ce que ça veut dire que je suis dénué d'intelligence ?
Pas d'intelligence.
Merci.
Définitivement. Mais vous avez peut-être un défaut d'inhibition. C'est-à-dire, vous dites oui, carré rouge, cercle jaune, ça doit être la réponse correcte. Et en fait, il faut vraiment inhiber cette réponse trop rapide. Alors, je disais le monde du travail. Prenons l'exemple des polytechniciens qui doivent peut-être croire que ça n'arrive qu'aux autres. Dans un grand groupe industriel français, comme je l'évoquais, j'ai fait ce test avec des polytechniciens, un grand groupe, une trentaine, qui étaient les 10-1, c'est-à-dire les 10 moins le président directeur général. Donc, susceptibles de devenir grand patron en France. Tous se trompaient. La moitié d'entre eux acceptaient l'erreur. L'autre s'énervait. Et ce qui permettait de leur expliquer que cette inhibition dont je parle est très liée aux émotions. Et qu'il faut trois émotions. Le doute, douter de soi, Descartes que l'on évoquait tout à l'heure. La curiosité, être curieux de répondre autrement qu'on ne l'a fait. Et le regret surtout. Regretter. J'ai dirigé une thèse entière sur le regret. Et l'anticipation du regret permet d'inhiber. Parce que vous regrettez ce que l'heuristique vous ferait répondre. Ou on a parlé dans les actus d'un acte homophobe, qui est typiquement une heuristique, comme le sont tous les stéréotypes, c'est-à-dire de façon trop rapide de penser qui peut conduire à la violence. Eh bien, il faut s'arrêter, il faut y réfléchir, il faut l'inhiber, et après raisonner moralement, logiquement.
Alain se demande si une preuve irréfutable de l'intelligence, si ce n'était pas le sens de l'humour dont vos invités sont grave dotés. Humour à froid d'Olivier Houdet. Est-ce que l'humour, c'est une composante de l'intelligence ?
Oui, parce que je crois que... Alors moi, je le livre en exclusivité sur votre plateau. J'ai une hypothèse que je n'ai jamais pu tester. J'ai sous les yeux, à la page 157, un portrait de Vygotsky, qu'Odile Jacob avait absolument voulu que l'on mette. Et elle a raison, parce que Vygotsky avait parlé justement...
Qui était Vygotsky, un grand psychologue
russe du XXe siècle, moins connu que Piaget, mais qui avait justement montré le rôle du social et du langage sur l'intelligence. Et Vygotsky disait que l'intelligence est notre langage régulateur, pas celui qu'on utilise maintenant, puisqu'on parle réellement, mais celui qu'on utilise de façon silencieuse et secrète dans sa tête pour réguler nos actions. Et ce qu'on découvre, nous, dans le cerveau, on en reparlera tout à l'heure, correspond vraiment à cela. Mais pour le rire et l'humour, je crois, et c'est mon hypothèse, que le cœur de l'intelligence, c'est un ricanement intérieur. Comme le langage intérieur de Vygotsky. Et un ricanement intérieur, c'est rire un peu de soi, rire un peu de ce qu'on vient de dire, et ce léger décalage est, à mon avis, une fenêtre temporelle qui, dans nos neurones, permettrait à l'inhibition de se déclencher. Et comme on rit de nos propres faiblesses et de nos propres automatismes, peut-être pourrait-on les inhiber.
Priscilla Pelédoil.
Oui, l'humour, en effet, semble être une des clés de l'inhibition, hein, du tout venant, des idées toutes faites. Alors, moi, j'ai une question qui va peut-être vous paraître bête et pas du tout inhibée et complètement heuristique, mais j'aimerais savoir où vous placez là-dedans la créativité, l'imagination et puis bien sûr les émotions. Est-ce que toutes ces qualités-là sont du côté de l'heuristique, ne rentre pas du tout dans le système de l'inhibition, ou alors est-ce qu'au contraire, et j'aurais tendance à le penser, ce sont l'expression, en tout cas par exemple pour de grands artistes, qui génèrent une fracture entre un monde et permettent de rentrer dans un autre monde. Je peux donner l'exemple de certains musiciens ou de Picasso qui a véritablement révolutionné l'art en passant l'art moderne. Est-ce que vous pensez que là on se trouve devant l'heuristique, voilà, ou au contraire devant une inhibition et qui permet de franchir, moi j'aime bien cette idée du franchissement d'une étape, de passer en gros d'un monde culturel, d'un monde artistique à un autre monde artistique.
Alors je crois que ce que vous avez dit, vous me volez ma réponse Christina, de Picasso, j'en donnerai d'autres. Je pense que le peintre, ou les peintres, mais Picasso en est un exemple, qui ont inventé l'art moderne, l'art abstrait, ont dû inhiber l'heuristique figurative qui a dominé les siècles et qui était merveilleuse. C'est très beau, les tableaux figuratifs. Moi-même, je fus peintre avant d'être instituteur et psychologue. Je sais combien il faut inhiber le figuratif pour activer des formes grâce à l'imagination, à la créativité qui ne correspond pas à ce qu'on voit. Sébastien Boller parlait d'imitation tout à l'heure. Les peintres figuratifs, pendant des siècles, imitaient.
Et il a fallu tenter d'imiter.
Et c'était une valeur que d'imiter. Il a fallu inhiber cette imitation pour être créatif.
C'est la question de la ressemblance. Voilà. Hein, comme c'est ressemblant.
Exactement. Dans les valeurs, dans les jugements esthétiques. Alors, ce que je voudrais dire de façon la plus brève possible, c'est plusieurs choses. On mène au laboratoire CNRS de la Sorbonne un grand programme avec Mathieu Cassotti sur la créativité. Et précisément, on a toujours considéré dans le monde de l'éducation ou du travail, du management, que l'inhibition était contraire à la créativité. Mmh. Et c'est exactement l'inverse. On n'a jamais compris ce processus inhibiteur dont je parle dans ma nouvelle théorie, parce qu'en général, quand on n'est pas créatif, c'est parce qu'on est enfermé dans nos heuristiques habituelles. Mmh. Et il faut au contraire inhiber pour activer des solutions très souvent qui sont déjà dans le cerveau. L'exemple du problème logique que je vous donnais, losange vert, carré bleu, il est, ou un autre exemple, il est déjà dans le cerveau. Il faut simplement aller le chercher. Et en fait, si vous inhibez vos heuristiques très nombreuses, ça libère votre créativité.
Et ça vaut même pour les scientifiques et surtout pour les scientifiques.
Le changement de paradigme en science, c'est vraiment cela, ce qu'ont décrit les grands épistémologues.
Et les mathématiciens sont de grands imaginatifs.
Absolument. Et Gaston Bachelard, grand philosophe, avait parlé d'obstacles épistémologiques et avait une philosophie du non. Et les grands élèves de Bachelard, dont Dominique Lecourt, grand spécialiste histoire des sciences, m'ont un jour dit, mais Olivier, grâce à votre théorie qui combine l'inhibition et l'émotion, vous donnez à Bachelard ce que Piaget ne lui a pas donné, parce qu'il paraît que Bachelard cherchait chez Piaget, qui était son contemporain, désespérément une théorie de sa philosophie du non, mais chez Piaget, ce n'était que du oui, c'est-à-dire des structures qu'on active. Or, il n'a pas conçu l'aspect très utile du non, c'est-à-dire de l'inhibition.
Sébastien Boller.
Oui, alors moi, j'ai envie de dire que peut-être que quand on crée des nouveaux mouvements artistiques, justement, on se désinhibe aussi, parce que quand on voit l'art figuratif ou toutes les formes d'art très convenues qui existent à certaines époques, ça a l'air très corseté, très inhibé. Et là, arrivent des artistes qui se disent qu'ils font tout éclater, quelque part.
Alors peut-être que l'inhibition, c'est la désinhibition.
Alors moi, j'en parlais avec Fernand Gobet, qui est un spécialiste justement de l'intuition à l'Université de Liverpool, qui me disait, c'est étonnant parce que dans le processus créatif, le fait de faire voler en éclats les cadres comme ça, de prendre le contre-pied de ce qui a toujours été fait, c'est considéré comme une heuristique. C'est une heuristique, c'est-à-dire une stratégie classique des gens qui veulent faire de l'innovation, de se dire, je vais prendre tout ce qui a déjà existé et je vais faire le contraire.
Oui, et très souvent, ils n'y arrivent pas.
Et très souvent, ils n'y arrivent pas, mais très souvent,
ils n'y
arrivent
pas. Picasso
a fonctionné comme ça. Il s'est dit, maintenant, je vais faire complètement contraire. Mais au départ, il faut déjà connaître bien tout ce qui a été fait. Et puis, alors, dans le processus de créativité, moi, je me souviens avoir lu des choses quand même passionnantes sur, mais peut-être qu'Olivier Houdet va me détromper, sur le fait que, au moment où on fait jaillir ce qu'on appelle la pensée divergente, c'est-à-dire plein d'idées nouvelles qui partent dans tous les sens, il faut quelque part un petit peu éteindre son cortex frontal. L'éteindre pour justement se désinhiber.
C'est une boucle.
Se désinhiber, c'est-à-dire lâcher libre cours à son imagination et ensuite réintroduire un filtre pour dire il y a des solutions qui sont valables et d'autres qui ne le sont pas. Est-ce qu'il n'y a pas un va-et-vient entre désinhibition et réinhibition?
C'est tranché expérimentalement. Il y a eu un vrai débat scientifique ces dernières années et, entre guillemets, on a gagné. Notre hypothèse avec Mathieu Cassotti a été démontrée. En fait, il faut qu'une partie du cortex préfrontal se mettre en marche, celle de l'inhibition, qui va inhiber partout dans le cerveau des heuristiques qui domine et qui nous empêche d'être créatifs. Et une fois que cette inhibition a marché, l'étape d'après, les générations d'idées, la pensée divergente se déclenche. Et donc, tu as très bien résumé ce qui était le point de vue classique sur l'inhibition. En fait, il faut inhiber pour être créatif, donc il faut activer le cortex préfrontal qui lui-même inhibe et peut même s'inhiber lui-même. Et je crois qu'au final, même, on pourra parler de méditation, et à un moment donné, il faut inhiber l'inhibition. Et l'inhibition de l'inhibition, c'est peut-être la méditation. Plus aucun contrôle. Mais c'est toujours de l'inhibition puisqu'on inhibe l'inhibition.
Françoise nous demande, enfin nous dit, à mes enfants, j'expliquais qu'être intelligent, c'est n'avoir pas peur d'être pris pour un crétin. Quand on ne comprend pas quelque chose à l'école, par exemple, c'est oser poser des questions qu'on croit bêtes. Vous êtes d'accord avec ça,
Olivier ? Excellente question. Et je pense que adopter l'analyse que je propose ici en trois systèmes, heuristique, logique et inhibition, ou heuristique, algorithme et inhibition, c'est être bienveillant ou essayer d'être bienveillant à l'égard des erreurs des enfants. Parce que quand un enfant se trompe, c'est pas nécessairement parce qu'il n'a pas le système 2, parce qu'il n'est pas logique, mais il peut se tromper parce que la question même du professeur ou le dispositif expérimental, la façon de présenter le problème, déclenche dans le cerveau de l'enfant, sans que l'enfant le sache et sans que le professeur le sache, donc inconsciemment, subrepticement, une heuristique qui fait qu'il se trompe. Donc il ne se trompe pas parce qu'il est bête, il ne se trompe parce qu'il n'a pas pu inhiber un piège. Et c'est complètement différent, parce qu'ensuite, il ne faut pas répéter à l'enfant la logique. Les algorithmes, il les a. Il faut lui apprendre à inhiber une heuristique qui marche toujours, qui a peut-être marché juste avant dans le problème précédent, qui marchera après. Mais l'intelligence, c'est fin, c'est au cas par cas, c'est ici et maintenant.
Allez, nous attendons toutes vos questions sur l'intelligence au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Malik Judy interprété Belle Sueur.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h46, qu'est-ce que l'intelligence ? C'est notre question ce matin avec le professeur en psychologie du développement Olivier Houdet et avec Sébastien Boller, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho.
Je ne suis pas plus intelligent qu'Einstein, ni moins intelligent, parce que cette comparaison n'a pas de sens. Bien sûr que mon intelligence n'est pas celle d'Einstein, parce que lui, il a été capable de trouver des choses que j'ai jamais trouvées. Bien sûr, mais quelle était la caractéristique de cet homme qu'on présente comme très intelligent? C'était pas d'avoir une activité intellectuelle plus vive, mais c'était d'avoir une horreur du sentiment de ne pas comprendre. Quand il ne comprenait pas, il comprenait qu'il n'avait pas compris, et il aimait pas ça, alors il s'arrangeait pour finir par comprendre. Quelquefois, c'était très long. Par conséquent, la vraie forme de l'intelligence, c'est de comprendre qu'on n'a pas encore compris et de faire le nécessaire pour comprendre quand même.
Albert Jacquard sur France 5 en 2010, Sébastien Boller.
Oui, c'est ce qu'on appelle la métacognition. Cette capacité de prendre conscience de nos différents actes mentaux est une capacité qui est très liée au succès de façon générale dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. Et on a longtemps cru que ça se développait seulement chez l'adulte, la métacognition. On s'aperçoit que ça se développe chez l'enfant et que c'est fortement encouragé. Et moi, j'aime beaucoup ce que dit Albert Jacquard sur Einstein. Einstein était très préoccupé par la bêtise. Et c'est intéressant qu'il se soit posé la question de ses propres limites, parce que vous connaissez sa phrase, il disait « il y a deux choses infinies, c'est l'univers et la bêtise humaine, mais sur l'univers, on n'a pas encore vraiment de certitude. »
Olivier Houdet, sur les propos d'Albert Jacquard.
Alors, quand il dit l'intelligence, c'est comprendre qu'on n'a pas compris, vous comprenez que ça rejoint les émotions contrefactuelles dont on a parlé tout à l'heure, le doute, la curiosité, le regret, si on le décline, le commentaire de Jacquard. Donc, comprendre qu'on n'a pas compris, c'est douter de sa réponse, éventuellement la regretter et être curieux de trouver la solution. Et la métacognition dont on parlait est essentielle. Le système 3 que je décris dans le livre est purement métacognitif. C'est s'arrêter à un moment donné, réfléchir à ses propres pensées et se demander si certaines ne sont pas trop rapides, trop heuristiques, trop automatiques, et décider de déclencher un mécanisme inhibiteur. C'est la métacognition, je dirais, la plus exigeante qui soit. Ce qui n'empêche qu'on peut... Elle est trop lente, la métacognition. On peut automatiser la métacognition, ce qu'on dit rarement. Oui. C'est-à-dire la rendre ultra rapide, et c'est peut-être cela qui nous rendra plus intelligents, mais pour ça, il faut l'exercer. Et dès l'école, en effet, dès la maternelle, nous faisons des exercices métacognitifs sur le contrôle de soi.
Est-ce que les émotions ne peuvent pas complètement nous empêcher de faire ça? La peur, par exemple. On prenait l'exemple des enfants en classe. C'est vrai que dans les classes, il peut y avoir 20 enfants qui ont une question qui leur brûle les lèvres, ils n'osent pas la poser, ils ont peur. Ou alors, la peur d'être confronté à ses propres erreurs ou l'excès de confiance. Vous parlez de se rendre compte du fait qu'on est en train de se tromper. Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est en politique, on pose une question et jamais quelqu'un va répondre « je ne sais pas ». Alors que dans la moitié des cas, un examen comme ça métacognitif les amènerait à dire « bah écoutez, honnêtement, là, j'ai pas la réponse ». Donc, est-ce que c'est pas quelque part nos émotions, soit qui nous brident totalement, qui nous empêchent de faire ce geste, soit qui, par excès de confiance, nous disent « bah non, c'est bon, j'ai pas besoin de me poser cette question sur moi-même ».
Absolument. L'exemple des polytechniciens que j'évoquais tout à l'heure était un exemple d'excès de confiance quand ils n'acceptaient pas leur erreur. Mais vous avez raison, et c'est aussi une question de Christina tout à l'heure, je réponds deux en même temps. Rapidement, il y a deux types d'émotions. Les émotions comme la peur ou la joie excessive qui sont quelquefois négatives et qui justement s'immiscent dans le système 1 et font que l'on est heuristique. Soit heuristique, une heuristique qui nous bloque ou une heuristique qui fait qu'on est beaucoup trop impulsif. Mais d'autres émotions, il n'y a pas un seul type d'émotion. Et Antonio Damasio, grâce à ces systèmes dits de marqueurs somatiques, c'est-à-dire les émotions dans notre corps qui sont cartographiées dans le cerveau, avec lequel on travaille, a fort bien décrit aussi ces émotions intellectuelles que Théodule Ribot, grand promoteur de la psychologie scientifique au début du XXe siècle, avait montré. Et le doute, la curiosité, le regret sont des émotions, vraiment des émotions, mais des émotions cognitives ou le sentiment de soi. Alors, comme dans toute émotion, on peut être excessif et même peut-être qu'un excès de métacognition ferait qu'on serait trop raisonneur ou trop inhibiteur et qu'on serait pas intelligent.
Petite précision sémantique, la métacognition, c'est quoi, Sébastien Boller?
Mais c'est la capacité de réfléchir à la façon dont on réfléchit, de prendre conscience de ce qui se passe dans notre tête quand on réfléchit.
Priscilla Pelédoil.
Alors, est-ce que ça voudrait dire que, en imaginant dans un monde idéal, que nous avons la capacité, par exemple par l'éducation, de muscler notre capacité d'inhibition, est-ce que ça veut dire qu'on devient de plus en plus intelligent?
A priori, oui. Reste à le faire, c'est ça qui est très difficile. D'abord, nous, ce qu'on a montré en laboratoire, c'est comment en imagerie cérébrale, on pouvait valider le fait qu'une intervention pédagogique, c'est-à-dire un professeur qui apprend à son élève à inhiber, modifiait bien les réseaux neuronaux dans le cerveau. Et à la page 156 du livre, vous trouverez que avant l'inhibition, oui, mais il faut bien en parler de ces résultats d'image cérébrale. Avant l'inhibition, c'est la partie arrière du cerveau qui est activée, celle qui sous-tend l'heuristique, l'automatisme, et pas du tout le cortex préfrontal, y compris chez l'adulte, alors que le cortex préfrontal est à la fin de sa maturation, donc il devrait être utilisé. Piaget aurait dit, l'enfant va utiliser, l'adulte va utiliser son cortex préfrontal puisqu'il est au dernier stade de la logique. Ce n'est pas le cas. En revanche, si on fait un entraînement à l'inhibition chez l'enfant comme chez l'adulte, on observe, je veux voir votre émerveillement, Ali, une reconfiguration cérébrale de l'arrière vers l'avant du cerveau, et alors on utilise le cortex préfrontal. Dès l'instant où on a montré en laboratoire, c'est comme en médecine, il faut d'abord valider biologiquement, où on a montré en labo cette reconfiguration cérébrale grâce à une interaction sociale, c'est là où on rejoint Vygotsky, eh bien, on peut le décliner en classe. Et on le fait avec une plateforme numérique, Léa.fr, de l'éditeur Nathan. Et on travaille avec un grand nombre d'écoles de toute la France et de toute la francophonie. Les professeurs cartographient les heuristiques en classe et font 15 minutes par jour un entraînement à l'inhibition. Ils musclent leur inhibition, si vous voulez, je n'aime pas le terme, mais ils entraînent un processus clé de l'intelligence du cerveau des enfants et voient des effets non seulement dans ce domaine-là, mais des transferts en maths, on le comprend, les problèmes. Qu'on a vu tout à l'heure, en lecture, vu les lettres en miroir, et aussi dans le raisonnement. Et aujourd'hui, prendre du recul, raisonner, c'est éveiller cette intelligence inhibitrice du cortex préfrontal et aussi une pédagogie du regret, c'est évident.
Alors, Olivier Houdet a prononcé le mot « muscler », muscler son inhibition.
C'est moi qui l'ai prononcé. Olivier Houdet n'est pas d'accord.
Et j'ai pas voulu la peiner.
Non, parce que vous avez dit, il y a cette bascule entre l'avant et l'arrière du cerveau, et moi, ça me fait penser à ces études sur le... Vous savez, les connexions de substances blanches, ces faisceaux de neurones
on les observe,
entre l'avant et l'arrière du cerveau qui apparemment sont plus développés en fonction du QI. Et que l'intelligence supérieure serait en partie liée à ces faisceaux de connexion, ces sortes de fibres optiques là entre l'arrière et l'avant du cerveau, qui seraient plus développées, plus musclées chez les hauts potentiels, par exemple.
Bon, ce que dit Sébastien est extraordinaire. Alors, on a aujourd'hui, on l'utilise au laboratoire, une technique d'imagerie cérébrale qui permet de voir la matière blanche, c'est-à-dire la myéline qui entoure les axones, qui sont les connexions à courte ou longue distance dans le cerveau entre les neurones. Et en effet, ces fibres, cette connectivité est liée à l'intelligence, notamment au QI. Hier, nous avons une émission sur France Culture autour du QI et cette question. Mais le QI est un vieux test. En revanche, dans le QI, il y avait très certainement des items qui nécessitaient cette inhibition préfrontale dont je parle. Donc, c'est une vraie question de science aujourd'hui d'observer dans la matière blanche de notre cerveau, pas seulement la matière grise, comment les connexions, non seulement activatrices, mais inhibitrices, se mettent en place.
Frédéric nous demande justement ce que mesure exactement le quotient intellectuel. Et ça mesure quel type d'intelligence ?
Alors, on a longtemps dit, ce qui est en partie vrai, que ça mesure essentiellement l'intelligence logico-mathématique et verbale. Il y a d'autres thèses sur d'autres formes d'intelligence qui ont été développées, mais c'est utile dans certains cas cliniques pour des enfants surdoués qui seraient en échec scolaire. On croit qu'ils sont bêtes, or ils sont très intelligents, le QI permet de le démontrer. Mais on a aujourd'hui beaucoup d'autres tests nouveaux en neurosciences cognitives et dans les labos qui testent l'intelligence avec des outils renouvelés.
Quelles sont les autres formes d'intelligence, Sébastien Boller ?
Alors, il y a deux grands... soit on parle de, par exemple, l'intelligence émotionnelle. Alors, l'intelligence émotionnelle, qui a été étudié plus récemment que le fameux QI, depuis on va dire une vingtaine d'années, on commence à bien savoir ce que c'est la capacité à prendre conscience des émotions qu'on éprouve, à réfléchir à ce qui a pu les provoquer, donc introduire une forme d'analyse quand même dans ce qu'on éprouve, et puis ensuite réfléchir à la meilleure façon de les exprimer, parce que ça permet évidemment de mieux vivre en société, de désamorcer les conflits, et puis les détecter chez autrui. Donc tout ça crée une sorte de compétence autour de l'émotion, l'émotion qui n'est plus vécue de façon passive et brute, mais avec une forme quand même de compétence qui se développe. Et cette intelligence émotionnelle serait extrêmement liée au succès, que ce soit au succès professionnel, au succès sur le plan des sentiments, de la vie personnelle. Et on comprend bien pourquoi, parce qu'être capable de gérer ses émotions, de les exprimer, de les analyser, ça désamorce énormément de conflits et ça permet d'aller dans la finesse de relations humaines. Et puis il y a l'autre côté des autres intelligences. Alors là, on entre dans le terrain de ce qu'on a appelé les intelligences multiples. C'est de dire, bah, il n'y a pas que l'intelligence logique ou verbale, mais fractionner ça dans tous les domaines de compétences de la vie, ça va être l'intelligence musicale, l'intelligence du corps, l'intelligence interpersonnelle, sociale. Bon, il y en aurait 8 comme ça. C'est une théorie qui a eu le vent en poupe, qui est parfois controversée, mais qui soulève des vraies questions. Voilà, sur est-ce qu'on peut comme ça avoir des personnes qui sont vraiment intelligentes avec leur corps ou avec leur oreille? Voilà.
Olivier Houdet, réponse très rapide. Question de Sylvia. Un traumatisme dans l'enfance peut-il nuire au développement de l'intelligence?
Ça dépend du type de traumatisme. Tout traumatisme, évidemment, vous bloque, vous arrête, vous fait souffrir. En revanche, je crois que, en partie, l'émotion, bien sûr, et l'intelligence peut nous permettre de sortir de nos traumatismes.
Et au fond, pour terminer, cultiver son intelligence, c'est résister, parce que penser, c'est toujours penser contre soi.
Absolument. On a tendance à croire, avec la notion politique ou historique de la résistance, les grands résistants, De Gaulle, Moulin, que c'est résister contre un ennemi extérieur. Je pense que le plus grand ennemi, c'est notre ennemi intérieur, et qu'apprendre à résister, être intelligent, inhiber, c'est inhiber contre soi.
Sébastien Boller.
Oui, mais écoutez, je pense que cette maxime mérite d'être méditée jour après jour, parce que nous sommes nos pires ennemis. Moi, j'ai beaucoup essayé de le développer
dans
par rapport à la
livre.
Question environnementale. Notre façon d'agir de façon impulsive, intuitive, nous pousse à consommer toujours plus, à chercher des replis identitaires, toutes sortes de choses qui sont extrêmement nuisibles aujourd'hui. Et il faut absolument être capable de remettre ça en question.
Christine Appelé-Douel.
Mais moi, j'en conclus que la bêtise est heuristique.
Oui. Bien vu. Pour terminer cette émission, que je vais réécouter en podcast tranquillement, pour bien tout comprendre. Merci Olivier Houdet. Je recommande votre livre « L'intelligence humaine n'est pas un algorithme ». C'est publié chez Odile Jacob avec une préface de Jean-Pierre Changeux. Merci Sébastien Boller. On peut lire avec profit le dernier numéro de « Cerveau et psycho, comment la nature fait du bien ». À notre cerveau que Christine Appelé-Douel m'a piqué. Merci à la documentation de Radio France, aux standardistes de France Inter et à l'excellente programmation de Muriel Pérez. Lundi, on évoque le cancer, un ennemi vieux d'un demi-milliard d'années et qui a accompagné l'évolution de l'espèce humaine. Nous verrons pourquoi la théorie de l'évolution de Darwin pourra peut-être permettre de vaincre le cancer. Nous attendons toutes vos questions lundi au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, eh bien, il y avait Élise Christophe et Rémi Sistiegar.